De retour au Parler de sport, Marc Legault, salut!
Salut Michel!
Commence avec le match de ce soir. C'est Antonio Pipkin qui va être à l'office, à l'œuvre comme quart arrière pour les Alouettes. Ouh, on a peur! Contre le Rouge et Noir.
Je sens du sarcasme, Michel. Ouais. Pour combien de temps Pipkin va être au poste de quart? On ne le sait pas.
Une interception. Une ou deux interceptions, puis il va sortir.
Ben non, ça c'est sûr et certain. Il l'a bien fait par contre la semaine passée, mais c'est une confrontation au sommet, Michel. Le Rouge et Noir qui fait flèche de tout bois au premier rang de la division S et les Alouettes qui sont au cœur de leur plus longue séquence de victoires de la saison. Michel, rien de moins, ils ont remporté un match de suite. Écoute, c'est la folie furieuse à Montréal. Ça devrait être un bon match, mais absolument, Trevor Harris est toujours très très bon face aux Alouettes de Montréal, mais au cours des dernières années, les matchs ont quand même été relativement serrés. On l'a vu encore une fois cette année. Donc, ce soir, ça, je m'attends quand même à une victoire du Rouge et Noir, mais dans un match qui va peut-être être plus serré qu'on pense. Évidemment, le Rouge et Noir qui entament leur deuxième portion du calendrier. Et honnêtement, Michel, ils sont très, très bien installés en première place. Ils contrôlent leur destinée. Ça prendrait là un désastre total pour voir le Rouge et Noir ne pas disputer la finale de l'Est à Ottawa. Et qui dit finale de l'Est, ben, c'est un seul match qui décide si tu vas à la Coupe Grey ou non. Donc, le Rouge et Noir est vraiment dans un contexte favorable. Et surtout que tu débutes ta deuxième moitié de saison contre la pire formation de la Ligue. Normalement, tu devrais aller chercher la victoire, augmenter ton avance sur Hamilton et sur Toronto et, comme je te dis, contrôler très bien ta destinée là, jusqu'à la fin de la saison.
Je trouve ça intéressant, mais j'aurais aimé mieux que ce soit quand même Mandiel qui soit le carrière partant. Je suis sûr même, là. Parce que
moi aussi, Michel, parce qu'on l'a vu lorsqu'il est venu il y a deux semaines, il y avait un buzz dans le stade. Ça demeure un nom qui attire encore. Et là, je te parle pas de ses performances, mais le nom fait encore résonner quelque chose chez certaines personnes, et les gens ont aimé le détester. Je ne sais pas si tu comprends ce que veux dire,
mais c'est
le fun d'avoir un vilain dans un match de sport, et les gens l'ont nargué tout au long de la soirée, et puis honnêtement, ça a mis une certaine ambiance, puis je trouvais que ça a rehaussé un petit peu justement comment je pourrais dire, l'importance de ce match.
OK, parlant d'un vilain, Max Pacioretty, quel vilain?
Et là, je sais pas qui croire. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que du côté du Canadien de Montréal et du côté de Max Pacioretty, on tente de se sauver, de sauver la face au public, et on tente d'avoir le beau rôle. Et je t'ai entendu tantôt avec Martin Leclerc, un journaliste que j'adore, mais il y a juste deux, trois petites choses qui clochent dans ce que Martin a dit. Est-ce que ces sources, c'était des sources du Canadien de Montréal? Si oui, comme je te dis, ça peut être
un
peu
douteux. Il a dit des sources distinctes, une de l'autre.
Donc, on sait pas d'où ça vient.
Moi, je pense qu'il doit en avoir à l'intérieur, c'est sûr.
Ben aussi, et l'autre chose qui cloche un peu là-dedans, c'est que Martin Leclerc nous a dit que Max Pacioretty aurait demandé à être échangé lors de la saison 2013-2014. OK? C'est fort possible. Le seul problème, c'est que Marc Bergevin a été nommé en 2012, et tu voudrais dire quoi, que deux ans plus tard, on aurait nommé capitaine du Canadien de Montréal un gars qui avait demandé à être échangé.
Mais non, mais hey, attends un peu, Marc. Pourquoi il a été nommé capitaine, lui? Parce que
Parce qu'on voulait pas nommer Subban.
On avait peur de Piqué Subban. Oui. On détestait Piqué Subban. Donc, on s'est dit, il y a deux candidats logiques, là. Il y avait deux candidats seulement. Fait qu'on a pris le moins pire des deux. On a pris Max Pacioretty. Puis en faisant ça, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait le valoriser. On voulait qu'il prenne son rôle au sérieux. On voulait que peut-être qu'il dise, ben finalement, m'en rester à Montréal.
Ouais,
comprends-tu? Vu que j'ai un rôle, puis que, ouais, finalement, je suis correct, là, tu sais. Parce qu'une fois que tu as demandé ta transaction, tu vas pas cogner à la porte à tous les mois pour dire, hey, puis ça avance-tu? Je m'en vais-tu? Tu comprends? Fait que je pense
comprends
que c'est
très
ça,
bien. Par contre, ouais, mais ben c'est, écoute, tu dis comme ça. Moi, je pense qu'il y avait peut-être d'autres candidats qui auraient pu faire le travail à ce moment-là. Entre autres, un Sergei Markov qui était là. Et ainsi de suite. Mais André,
ça, ça en a un autre, ça, qui est parti aussi parce qu'il n'aimait pas Bergevin ou que ça a mal été avec Bergevin.
En tout cas, mais tout ça, je pense qu'il y a un travail de relations publiques des deux côtés pour tenter de sauver la face, parce que là, tu as Alan Walsh, l'agent de Pacioretty. Tu as Pacioretty lui-même qui dit non, moi, je veux rester à Montréal, je veux signer un contrat à long terme, puis d'un autre côté, t'as des rumeurs qui sortent qui dit que demandait d'être échangé. Donc, qui dit vrai et qui veut se sauver la face et qui va gagner cela, on ne sait pas. Sauf que...
Mon expérience,
Marc... On l'a dit, les ponts sont brisés, Michel. C'est terminé d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ce gars-là va quitter, ne signera pas à long terme avec le Canadien de Montréal.
Mon expérience. Quand un agent dit, hey, ça n'a pas d'allure, le Canadien a coulé de l'information, c'est de la bullshit, cette histoire-là, là. Souvent, l'agent lui-même a peut-être, puis je dis, je connais, j'ai pas posé la question à Martin, mais a peut-être lui-même été une source. Parce qu'oublie pas une chose.
Je sais, Michel.
Lui a avantage à pas être échangé, puis est obligé de signer un contrat à Montréal parce qu'il va gagner. Il va gagner la négociation. Fait que si Walsh dit, je vais avoir un contrat à long terme avec Pacioretty, on le sait que ça va être autour de 8 millions. Ça ne sera pas en bas de ça. 7 à 8 millions, c'est sûr.
Exactement. Et le Canadien, de l'autre côté, veut couler de l'information pour donner peut-être un mauvais rôle à Pacioretty pour, si on l'échange et on n'a pas la pleine valeur, bien, on pourrait dire, du côté du Canadien de Montréal, c'est à cause de Pacioretty. Il a demandé lui-même à être échangé. On avait les mains liées. Il ne nous a pas donné le choix. Et vous avez vu son attitude. Ce n'est pas une attitude de leader. Ce n'est pas une attitude de capitaine. On n'a pas le choix de s'en débarrasser. Oui, on n'a pas reçu ce qu'on devait avoir pour pour un joueur de sa trempe, mais vous avez vu comme nous, c'était pas nécessairement un des meilleurs leaders. C'est pour ça qu'il l'a quitté. Donc, le Canadien aussi veut sauver la face. Donc, qui dit vrai, on le sait pas, mais les deux jouent le travail des relations publiques.
Intéressant. Hey, parle-moi de ta stupidité de la semaine, mon cher Marc.
Ah, écoute, Michel, je sais que ça fera pas plaisir à certaines personnes, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, lorsque j'avais appris que les champions d'Ottawa étaient pour faire débuter leur dernier match de la saison par Bill Lee, 71 ans, au Monticule. Je trouvais que c'était une vraie farce, une vraie honte. Ça demeure du baseball professionnel, ça demeure des joueurs qui prennent ça au sérieux, et je trouve qu'on faisait une farce de ce match-là. Et là, tiens, j'apprends que Bill Lee a mal au bras. Je me suis dit, on vient de régler le problème, il n'y a pas de cas, on va l'asseoir à une table, il va signer des autographes, il va compter de ses anecdotes qui sont aussi spectaculaires. C'est merveilleux. Ben non, il va être le frappeur de choix. À tout le moins, il va débuter le match comme frappeur suppléant, comme frappeur désigné. Je trouve ça totalement niaiseux, totalement stupide, et je vais aller plus loin. J'étais contre le fait l'autre jour, je disais que Jose Urena, qui a lancé une balle dans les côtes de Ronald Acuna Jr., souviens-toi, ce gars-là avait une séquence de circuit pour débuter les matchs là, exceptionnels, et le lanceur des Marlins lui a lancé une balle dans les côtes, et je me suis dit que je trouvais ça stupide de viser un gars intentionnellement comme ça. Il y a des moments lorsque je suis pas contre viser des frappeurs, des fois il y a certains moments que ça s'impose. Honnêtement, et c'est pour ça que je fais plus de sport, mais avoir le tempérament que j'ai et lancer pour les Boulders de Rockland, Bill Lee aurait une balle directement dans les côtes à sa première présence. Tu veux jouer avec les petits gars, mon Bill, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve ça stupide de faire jouer ça. Je sais qu'on va attirer du monde, mais je trouve qu'on fait une moquerie du match de baseball comme tel.
Si ça t'attire au stade, puis tu vas pas les voir en temps régulier, pose-toi la question, mon champion, t'as un problème, OK? On va commencer. On vient commencer de ce côté-là, voilà qui est dit. Marc, passe un bon week-end. Hey, juste te dire, surveille ça en fin de semaine. Shohei Ohtani.
Oui, il revient au Monticule.
Ça, là, c'est mon préféré. Un lanceur et un joueur de position chez les Angels. Il va lancer, un des bons lanceurs d'ailleurs dans le baseball majeur. Il arrive, il est jeune encore. Il a été blessé pendant toute la saison, mais il avait connu un bon début de saison.
Exact.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand il lance pas, souvent on le prend comme joueur de position. Puis c'était un des meilleurs frappeurs de son club avant qu'il soit blessé.
Et honnêtement, Michel, je comprends pas qu'on n'en ait pas vu plus souvent, et je t'explique pourquoi. Ces gars-là, je te parle des athlètes du baseball majeur, souvent au baseball universitaire, baseball collégial, ils lançaient et ils frappaient, et c'est lorsque t'es un athlète, lorsque t'es dominant, t'es bon aux deux positions, et je sais que ça prend du travail peut-être plus spécialisé une fois dans les majeurs pour élancer et peut-être jouer à des joueurs de à certaines positions, mais je comprends pas qu'on n'en ait pas vu plus souvent, et moi j'espère que ça marche pour Ohtani, parce que j'aimerais ça qu'on crée une certaine mode et qu'on envoie plus souvent des joueurs comme ça.
Je suis un peu d'accord avec toi, mon Marc. Je suis d'accord avec toi, mon Marc. Passe un bon week-end. On se retrouve mardi matin.
Salut, Michel.
Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Marc Legault. Les exploits sportifs, Mario, on en a régulièrement. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on doit faire une personne gagnante.
Exact, Michel. 31 du mois, donc dernière journée, parmi les exploits reçus au cours du mois d'août. Qui gagne le Grand Prix? Jean-Paul Sabourin nous avait envoyé un exploit au cours du mois d'août pour féliciter notamment les Bulldogs d'Elmer, les champions dans la tombe A au baseball. Une seule défaite dans toute la saison. Et d'ailleurs, cette équipe-là s'en allait aux provinciaux, là, je crois que c'était le week-end passé, pour représenter l'Outaouais. Alors, ben, bravo. Merci Jean-Paul Sabourin pour nous avoir fait parvenir l'exploit. Ce que vous gagnez, le groupe Cadry d'Argam, qui est propriétaire de Buckingham Chrysler et Buckingham Toyota remet chaque mois une carte cadeau de 200$ chez Fitness Entrepôt Outaouais. Alors, celle du mois d'août, elle vous appartient. Bravo. Puis, continuez de nous faire parvenir vos exploits. On reprend ça avec le mois de septembre la semaine prochaine. Mario.ob@fm1047.ca